Amen. Nous demandons à Frère Franck de venir. Loué et remercié soit le Seigneur, notre Dieu, pour sa grâce et pour sa miséricorde et sa compassion pour tout ce qu'il nous a accordé jusqu'à maintenant et pour toutes les bénédictions qu'il accordera encore, car il a commencé et il achèvera. Et nous avons la promesse qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand cela arrivera, alors nous serons enlevés auprès de lui dans la gloire. Et comme il est écrit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné. Et que Dieu ainsi nous accorde sa grâce, que cela se passe. J'ai plusieurs choses qui peuvent être dites, peut-être même qui devraient être dites. D'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue, fraternellement, cordialement, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur, de loin et de près de l'Europe, de l'Afrique, de partout, même de la Guadeloupe. Nous avons aujourd'hui un frère ici. Il y a un bus qui est venu de la Slovaquie, qui a entrepris sûrement plus de 1300 kilomètres, ensuite de la Tchèque, de la Pologne, de tout l'Est et l'Ouest de l'Europe, même de la Suède et de la Finlande. Et oui, les pays voisins, la France, la Belgique, et la Suisse et l'Autriche. Nous sommes simplement reconnaissants au Seigneur pour la possibilité que nous avons. La Roumanie est aussi représentée. Le frère Daniel de la Roumanie est ici. Et encore notre frère qui est venu avec lui. Que Dieu vous bénisse, vous deux. Il y en a encore plusieurs de la Roumanie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes simplement très, très reconnaissants de ce que Dieu appelle à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. Et que nous avons la grâce d'appartenir à ceux qui maintenant réellement ont entendu sa voix, son appel et ont suivi l'appel, ont répondu à l'appel. En septembre, Dieu a accordé sa grâce à ce grand voyage au fin fond de... Donc, à Singapour et particulièrement dans ces régions là-bas, en Malaisie, et où des portes sont ouvertes et beaucoup ont été touchés, d'autres ont été édifiés dans la foi et fortifiés dans la parole de la vérité et se sont aussi réjouis à l'est de l'Europe. Comme vous l'avez sûrement appris, nous avons eu ces grandes réunions en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où Dieu, vraiment au-dessus de toute mesure, a béni. Et nous nous sommes réjouis avec le frère Barillier et le frère Léonard. Le frère Léonard de Bruxelles était aussi là. Et le frère Barillier était aussi là dans ce voyage. Et c'était des jours bénis. Le stade contenait 16 000 personnes. Et trois fois, il était rempli. Dieu a vraiment accordé beaucoup, beaucoup de grâce. On peut vraiment le dire. Et comme en Roumanie, je l'écris ici, cela va sûrement, il y a sûrement quelques copies que vous pourrez prendre en sortant à l'entrée. J'ai essayé de faire quelques photos, mais sûrement ce n'est pas possible, bien sûr, de pouvoir avoir toute une foule comme ça dans une photo. C'est pas avec mon propre appareil que j'ai pu revenir avec ces deux photos. Mais comme en Roumanie, c'est ainsi aussi avec plusieurs photos. Donc là-bas aussi à Abidjan, alors que je voyais ces milliers et ces milliers de personnes, cette grande foule, milliers et milliers de personnes, je voulais savoir qui ils sont. Et là aussi, j'ai demandé combien croient par conviction la parole de Dieu pour cette époque, et sont baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les mains se sont levées, sans exception. Sans exception, nous avons tous regardé. Les photos ont été prises. Alors c'est vraiment puissant. Quelle moisson Dieu récolte dans les pays de l'Afrique d'une manière particulière. Et c'est vraiment merveilleux. En Europe, les gens font toujours plus, sont toujours en train, de se détourner, de s'éloigner de la foi. On entend partout, le nombre humain a été désigné. Partout, il y a des bâtiments religieux qui sont vendus, des églises qui sont vendues, des églises évangéliques qui sont vendues parce qu'elles sont vides. Il n'y a plus personne qui vient. Mais voilà, en Afrique, ce sont des milliers et des milliers qui remplissent un stade, qui viennent et qui ont écouté la parole de Dieu. Et je dois encore faire cette remarque. Alors que le frère Barillier et moi, il y a 35 ans d'ici, pour la première fois, nous étions là-bas et que nous avions voyagé de ville en ville et que nous avions prêché la parole de Dieu. Dieu a pu susciter là-bas, sur place, des frères qui ont porté la même parole et qui l'ont ensemencée durant toutes ces différentes années. Et nous avons toujours de nouveau entrepris des visites là-bas. Mais qu'une telle, une telle foule de personnes nombreuses viendrait aux réunions, cela a dépassé toute mon attente. Bien, mes frères et sœurs, nous avons assez de raisons pour remercier Dieu qui, de tous les peuples et les langues et les nations, appelle à sortir. Nous avons en Tchèque, nous l'avons vu en Slovaquie, nous le voyons partout, que le Seigneur appelle les siens. Et comme souvent nous avons eu à le dire, celui qui maintenant écoute son appel, entend son appel, l'entendra aussi quand les trompettes de Dieu retentiront et que la voix de l'archange retentira. Celui qui maintenant n'écoute pas, n'entend pas sa voix, son appel, ne l'entendra pas non plus. Celui qui l'entend maintenant l'entendra quand il reviendra. Et nous avons aussi beaucoup de salutations à remettre. Le frère John de Bucarest nous envoie des salutations et écrit: frère Franck, ceux qui avaient levé leurs mains lors de la réunion pour se laisser baptiser lors de ton passage sont venus tous après ton départ et le baptême a pu avoir lieu. Aussi, c'est un témoignage merveilleux pour la gloire de Dieu. Nous avons aussi des salutations du monde entier, réellement du monde entier. Et particulièrement aussi là, puisque nos frères de l'Afrique, qui particulièrement dans les pays de langue française, sont liés avec nous. Et là, nous remercions notre frère Alexis Barillier et nous remercions particulièrement notre frère Jean, qui en haut, là-bas, est assis et traduit. Seulement, cette courte remarque. Il y a beaucoup d'années en arrière, le frère Franck, d'années passées, le frère Franck avait entrepris une visite à Bad Wurtemberg, à Bonn. Et là-bas, à l'époque, était le papa de Jean, l'ambassadeur du pays dans notre pays. Oui. Et Dieu a touché le cœur de ce jeune homme, ma visite et chez l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, il y a beaucoup d'années passées, a eu pour suite que Jean, aujourd'hui, n'est pas seulement croyant, mais peut être un ustensile exceptionnel. Est-ce que les chemins de Dieu ne sont pas merveilleux? Est-ce que le Seigneur ne conduit pas les choses de manière merveilleuse? Bien, mes frères et sœurs, nous pourrions rendre témoignage de comment est-ce que les chemins de Dieu sont merveilleux, les voies de Dieu. Et cela dans tous les peuples, les langues, les nations, les voies de Dieu. Je parle toujours des prémices, du premier fruit. Quand des personnes ont besoin de temps de réflexion pour se poser la question, pour réfléchir, est-ce qu'ils doivent croire ou pas? Avec de telles personnes, Dieu ne peut pas faire beaucoup de choses. Il a seulement des difficultés avec eux. Mais celui qui peut de tout son cœur croire, lors de la première fois croire, il a reçu un cadeau de Dieu pour toute éternité. La foi est un cadeau de Dieu pour toute éternité, un don de Dieu pour toute éternité. Et la foi vient de la parole, et la parole est prêchée, et les hommes l'écoutent, les personnes l'écoutent, les gens l'écoutent et la reçoivent. Et nous avons ensuite seulement des petites remarques à faire en ce qui concerne notre temps actuel. Et nous devons tous constater que ce n'est plus bien sur terre. Il n'y a plus de choses qu'on pourrait appeler encore normales. C'est incompréhensible tout ce qui se passe sur terre. Imaginez-vous, il y a un président du Venezuela, c'est d'aujourd'hui, je crois il y avait 10 jours passés, devant toute la réunion de l'ONU. Comment s'appelle Bush? George W. Bush. Le président du Venezuela a eu le droit de lui adresser la parole de cette manière en disant « Tu es le diable en personne. » Oui. Cela a le droit d'être dit par un président du Venezuela, il adresse cela au président des États-Unis et devant toute la réunion de l'ONU, dire simplement cela, et alors quoi? C'est simplement plus à comprendre tout ce qui peut se passer sur terre. Mais cela a eu pour suite que aussi des enquêtes ont été faites sur Bush, sur M. Bush, et cette remarque, je vais la faire aussi rapidement. Ils ont constaté qu'il appartient à la loge des francs-maçons. Et tous nous savons que réellement, tout ce qui a un rang, a une position, a un nom, et sur cette terre, a un droit de décision, appartient ou alors à une loge. Si par exemple, nous considérons le domaine spirituel, ce sont les jésuites dans l'église catholique. Ensuite, nous avons toutes ces loges de francs-maçons. Et ils ont dit dans leurs enquêtes, ils ont parlé de ce qui se passe quand quelqu'un veut s'initier. Je vais lire. La personne qui s'initie à cette loge franc-maçon doit être torse nu. Et ensuite, il y a un cercle et un triangle et la Bible. La Bible est, lors de l'initiation dans la loge des francs-maçons, elle est sur la table. Cette personne doit ôter un de ses souliers, doit se laisser bander les yeux et ensuite par 3 personnes est conduit pour faire son serment et ensuite il doit jurer. Il y a une chaise, un autel et un crâne de mort et un cercueil. Et il doit faire un vœu et il y a un cercueil. Et maintenant, tenez-vous bien, le vœu doit être fait au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Dans les titres, la Bible est là, et ensuite une déclaration pieuse, et c'est ainsi que les gens se livrent réellement à une puissance étrangère. Qu'est-ce qu'on doit dire sur cela? Jean l'a écrit, l'apôtre, dans 1 Jean 5, le monde entier est sous la puissance du malin, et par la religion est trompé, et par la politique est trompé. Le monde entier est trompé et Satan est le prince de ce monde. Nous voulons regarder un peu à Israël et tous nous savons que Israël est le peuple élu de l'alliance de Dieu. Dieu, avec Abraham, Isaac et Jacob et ensuite avec Israël, a accompli et a confirmé cela. Pour avoir un peuple, d'avoir un peuple sur cette terre qui transmet, qui porte son témoignage, un peuple à qui il peut confier sa parole, un peuple avec qui personnellement il peut avoir communion. Et ça, c'est en fait l'objectif original de notre Dieu, d'avoir communion avec nous, les hommes. Et cela a commencé avec Abraham, que Dieu le Seigneur, personnellement, est descendu. Ce n'est pas un ange qui l'a envoyé, mais lui-même, personnellement, il vint accompagné de deux anges et il a parlé avec Abraham, il s'est assis avec lui, il a mangé avec lui et il a bu avec lui. Ça, c'est dans Genèse, le chapitre 18. Ici, nous avons dans cette nouvelle brochure, ce nouveau magazine là de l'Église évangéliste, que 348 églises orientées évangéliques, anglicanes et orthodoxes, que en fait leur siège est à Genève, ils se sont décidés d'avoir un droit de décision pour Israël, donc en ce qui concerne Israël. Et comme cela est écrit dans le titre de ce thème, ils veulent donc cesser l'occupation par Israël. Israël n'a rien occupé du tout. Israël a de nouveau possédé ou bien reçu le pays que Dieu leur a promis. Abraham, déjà il y a 4000 ans d'ici, a existé là-bas, et il y a 3007 ans que Israël, que Jérusalem a été en tant que capitale d'Israël est consacrée. Et nous nous tenons du côté d'Israël, nous nous tenons du côté de Dieu, et rien d'autre peut exister pour nous. Donc s'il vous plaît, cela n'a pas toujours sa place ici dans une réunion, mais seulement pour votre orientation. Ici, dans ce journal évangélique appelé Edia Spectrum, il y a un Autrichien appelé Seibel qui a écrit un article qui est vraiment précieux et qui est vraiment digne qu'on puisse le transmettre, le donner et en parler. Il a parlé du culte rendu à Marie, il a parlé contre cela, il a parlé aussi pour le sujet de la conviction de notre foi, la certitude de notre salut. Et ensuite, il a dit autre chose. Je lis, recevoir Jésus pour eux signifie recevoir l'hostie. Tous nous savons, ou bien alors j'espère que tous nous le savons, quand un catholique reçoit l'hostie, alors pour eux, c'est Jésus-Christ en forme corporelle. Le prêtre fait la transformation. Et ensuite, cette personne qui reçoit sur sa langue l'hostie, ou bien met dans sa bouche l'hostie, ça veut dire que dans la foi, selon la foi de l'Église catholique, il accepte personnellement Jésus-Christ. Et c'est ce que cette personne ici dans ce magazine reproche. Tous nous le savons par cœur dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, il est écrit... Tous ceux qui le reçurent, il leur donna le droit de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Et ensuite, je vais seulement le mentionner rapidement, il a parlé du concile de 1564 après la Réformation, et dans l'année 2017, ça va faire 500 ans depuis la Réformation. Et nous avons eu beaucoup de réveils durant tous ces âges. Nous avons, il y a du dernier réveil parlé il y a 100 ans d'ici, et le tout dernier après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, tout est en train de repartir dans le sein de la Mère Église. Et avant que ce retour arrive à sa fin, Dieu, lui, il appelle son Église à sortir. Il appelle à sortir. S'il vous plaît, croyez, il appelle à sortir. Avant que l'union totale ait lieu, il appelle à sortir de ça. Ensuite, cet homme l'a dit ici, donc le refus de la certitude de son salut, et ensuite suit la citation du concile 1564, disant que maudit qui est convaincu de son salut. Mais la Bible dit dans Romains 8 au verset 16 que son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Dans le concile 1564, ce sont seulement, et dans tous les autres conciles, ce sont seulement des thèses qui ne sont pas publiques qui ont été appelées à l'existence. Nous n'avons pas besoin de concile et non plus de tout ce qui a été décidé là-bas. Non, cet homme a réellement saisi un sujet chaud. Et maintenant, encore arrive le point culminant. Citation. L'inquisition catholique a, dans le déroulement de son histoire sale, mise à mort 15 millions de personnes. C'est un nombre important, n'est-ce pas? 55 millions de personnes. Bien, frères et sœurs, je ne vais pas ici entrer dans les détails, mais c'est réellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les religions et nous n'aurons pas le droit comme ça dans encore longtemps de parler librement tel que nous le faisons maintenant. L'inquisition catholique a 55 millions de personnes sur la conscience. Il y a plusieurs choses que je voudrais encore dire ici que nous ne voulons pas mentionner, mais je fais que me référer à ce qui est écrit dans Idias Spectrum. Moi, je ne vais même pas oser dire une telle chose. Je ne fais que lire ce qui est écrit ici. Encore un verset ici. Ce n'est plus une œuvre accomplie avec un grand sacrificateur assis, Hébreux 10, du verset 11 au verset 12, qui, une fois pour toutes, a accompli toutes choses, mais c'est un Jésus, celui des catholiques, qui est toujours de nouveau par le sacrificateur sacrifié. Oui. Et la Bible, les Saintes Écritures disent dans Hébreux, dans le chapitre 9, au verset 12, une fois pour toutes, il s'est donné en sacrifice et il a accompli par sa grâce la rédemption, une fois pour toutes. Nous n'avons pas besoin de médiateur, il est le médiateur. Nous n'avons pas besoin d'intercesseur, il est l'intercesseur. Amen, amen. Et encore une fois, amen. On pourrait continuer à lire. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui pour ça ici. Par exemple, quand, si je dirais encore, parce que l'histoire avec l'islam, justement, frappe de grandes vagues, si je dirais, par exemple, de manière officielle, que dans le Coran, le mot Allah, par exemple, dans la Bible, a le droit d'être inscrit 10 000 fois, mais dans la Bible, pas une seule fois, a le droit d'être écrit Allah. Mais ici, dans la Bible, ici, maintenant, dans la Bible, hein, 6 000 fois, dans tous les pays islamiques, où chez nous, Dieu dans notre Bible est écrit, là-bas, il est écrit Allah dans leur Bible. Je peux le lire. Seulement dans Genèse chapitre 1, 32 fois, dans Genèse chapitre 1. Seulement dans Genèse chapitre 32 fois. Et tous savent, n'est-ce pas, que Allah est ce vieux Dieu de la lune des Babyloniens qui accorde la fécondité, qui a accordé la fécondité, n'est-ce pas, à la végétation. Et alors que Mahomet avait détruit tous les autres dieux, il a déclaré le dieu de sa tribu en tant que le seul vrai dieu. Et c'est depuis ce jour que les chrétiens, les soi-disant chrétiens et tous les autres pensent que Allah et notre Dieu est le même Dieu. Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Notre Dieu est Elohim, Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Oui. Mais vous l'écoutez dans les nouvelles, nous avons tous le même Dieu. Juif, chrétien et musulman. Non, nous n'avons pas le même Dieu. Le Dieu d'Israël est un seul Dieu. Il n'est pas une trinité. Il n'est pas trois qui sont unis, mais il est un seul Dieu. Écoute Israël, et unique. Le Seigneur ton Dieu est un seul, est une seule personne, est unique. Il est unique, il est seul en tant que personne. Et dans le christianisme, ils disent qu'il y en a trois qui sont unis d'éternité en éternité déjà. Trois sont trois, s'il vous plaît, et un est un. Un ne peut pas être trois. Et nous croyons à un seul Dieu qui s'est révélé à nous en tant que Père au ciel et dans son Fils seul, engendré par lui, sur terre, et en nous par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est l'engendré du Saint-Esprit, né de Marie, Fils de Dieu. Il est venu dans la chair parce que nous sommes dans la chair, et il a dans son corps de chair accompli la rédemption pour nous, accompli la rédemption. Et c'est ainsi que il nous a, pas que il va nous, mais il nous a donné la position de fils, l'adoption. Il nous a accordé l'adoption. Nous sommes fils et filles de Dieu, devenus par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est ainsi que les choses restent et demeurent valables. Nous allons toujours de nouveau, et nous allons jamais changer le témoignage des Écritures. Nous allons enseigner et croire comme le dit les Saintes Écritures jusqu'à ce que le Seigneur revienne. À cela, Dieu nous a déterminés. À cela, il nous a mis à part et il nous a consacrés pour que nous puissions le servir et le suivre, et que sa volonté par notre vie ait lieu. Mais pour encore une fois, pour finir ce côté-là du sujet, finir, le mélange est grave. Tout est mélangé et personne ne se retrouve, si ce n'est que Dieu nous fait grâce et miséricorde et nous accorde sa grâce. Sinon, personne ne peut se retrouver. Et ensuite, nous venons, n'est-ce pas, à ce point important, à ce que la parole de Dieu, elle nous signifie. C'est-à-dire, elle nous signifie tout en tous. Tout en tout. Si ta parole n'était plus valable, sur quoi est-ce que ma foi devrait se reposer? Pour moi, il ne s'agit pas de 1000 mondes, mais de mettre ta parole en pratique. Et de mettre ta parole en pratique. Aujourd'hui, nous allons aussi avoir le souper du Seigneur. Et nous voulons avant, n'est-ce pas, lire quelques versets bibliques. Le premier, dans Deutéronome, chapitre 27. Deutéronome, chapitre 27, à partir du verset 9 et 10. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. En allemand, Israël, observe dans le silence et écoute. Donc, le peuple d'Israël doit se taire. Le peuple devait se taire et écouter. Et en cela aussi, nous devons nous habituer que nous puissions, dans les choses spirituelles, ne pas pouvoir parler, mais laisser Dieu parler dans les choses spirituelles. C'est pas, nous n'avons pas le droit de parler. Le peuple devait se taire et observer et écouter Dieu parler. Écouter ce que Dieu, le Seigneur, a à dire à son peuple par sa parole. Ensuite, aujourd'hui, Tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des jours dans notre vie où quelque chose de particulier se passe. Et c'est ainsi que c'était aussi ici avec Israël. C'était un jour particulier. Il y a eu des jours particuliers de la visitation de grâce de Dieu. Il y avait eu le jour de l'alliance. Il y avait eu le jour où la loi a été donnée. Il y avait eu les ordonnances et les commandements que Dieu avait fait pour son peuple. Et aujourd'hui, ici, il est parlé aussi aujourd'hui. Dans ce jour d'aujourd'hui, tu es devenu en allemand, dans ce jour d'aujourd'hui, tu es devenu le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, taisez-vous, observez, taisez-vous, mais écoutez ce que le Seigneur a à nous dire par sa parole. Aujourd'hui, nous sommes en tant qu'une communauté ici réunie et il y a des difficultés partout. Je voudrais pour cela lire une parole dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Ici, il est écrit à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Dans cette réunion, dans ce culte, il faut que quelque chose se passe et quelque chose va se passer. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Un culte rendu à Dieu accomplit son objectif et sa signification. Quand tous viennent au Seigneur et lui disent leurs requêtes et sont exaucés, repartent à la maison et reçoivent la réponse à leurs prières et expérimentent ce qu'ils attendaient du Seigneur et ce dont ils avaient besoin. Voilà l'objectif d'un culte. Ici, il est dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Si il y a des frères et sœurs et des amis parmi nous qui n'ont pas encore reçu la paix, trouvé la paix avec Dieu, et qui ne sont pas encore venus dans le repos en Dieu, que aujourd'hui cela se passe. La parole de la croix et du crucifié sont aujourd'hui une puissance de Dieu. C'est-à-dire d'écouter simplement la parole de Dieu et la croire. Dans Matthieu 12, il nous est tout de suite donc dit au verset 15, Matthieu 12, verset 15, mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Pour moi, il s'agit surtout de la deuxième partie de ce verset. Ensuite, à partir de maintenant, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, qu'il guérit tous. C'était ainsi, dans les jours de notre Seigneur, que ce n'était pas ceux qui étaient fatigués, mais ceux qui étaient dans les besoins. Et qui disons, donc, ce n'étaient pas ceux qui n'étaient pas fatigués, mais c'était ceux qui avaient des besoins, qui se sont réunis autour du Seigneur. Et ils ressentaient que de lui sort quelque chose. C'étaient ceux qui étaient fatigués et ceux qui étaient chargés, qui sont venus au Seigneur, qui l'ont entouré et qui ont reçu de lui ce dont ils avaient besoin. D'abord, venez à moi, et ensuite une grande foule le suivit. Et ce n'étaient pas ceux qui n'étaient pas fatigués et chargés, mais ceux qui étaient fatigués et chargés qui sont venus à lui. Et ils ont été guéris tous par lui. Mais bien, frères et sœurs, si nous rencontrons le Seigneur, il faut que cela soit dit, notre marche avec le Seigneur commence au moment où nous avons une rencontre personnelle avec lui, notre salut personnel avec lui, notre conversion, notre nouvelle naissance, que nous aussi, nous puissions, par l'expérience faite avec lui, suivre le Seigneur. Beaucoup le suivaient, mais écoutez s'il vous plaît attentivement, il guérit tous les malades. Ici, il n'est pas dit, et il guérit plusieurs, ou bien alors il guérit beaucoup, mais il guérit tous ceux qui étaient malades. Est-ce qu'il est aujourd'hui le même? Est-ce qu'il est aujourd'hui le même? Si nous sommes réellement des disciples, si nous le suivons, nous avons ce droit divin de rejeter la maladie et d'accepter la guérison. De refuser la maladie et d'accepter la guérison. De recevoir la guérison. Ça, c'est notre droit divin, si nous suivons le Seigneur. Je le répète encore une fois. Notre droit divin est de refuser la maladie. Elle ne nous appartient pas. Elle n'a pas de place dans notre corps. De rejeter avec une colère intérieure les symptômes de la maladie. De les renier, de les refuser. Mais dans la foi, de refuser la maladie et d'accepter la guérison. Pourquoi est-ce que nous pouvons refuser et rejeter la maladie? Parce qu'elle ne nous appartient pas. Elle n'est pas à nous. Parce que le Seigneur l'a portée. Ces symptômes-là, c'est un mensonge. Ce qui est vrai, c'est qu'il a porté nos maladies. Il a porté toutes nos maladies sur lui. Et c'est ainsi qu'il les a portées sur le bois de la malédiction. Il est devenu pour nous malédiction. Et c'est ainsi qu'en lui, nous avons le droit d'avoir toute la rédemption, c'est-à-dire le salut de notre âme et la guérison de notre corps. Les deux nous appartiennent par l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha, sur la croix. Donc, une rencontre personnelle avec le Seigneur a pour résultat qu'on devient disciple du Seigneur, on le suit, et ensuite, on a le droit d'expérimenter le Seigneur. Car il est dit ici qu'il a guéri tous ceux qui le suivaient. Nous avons ce droit divin de mettre même notre doigt sur ce verset-là et de dire, bien-aimé Seigneur, tu m'as appelé à toi. Je suis fatigué et chargé, venu à toi. Tu m'as accordé du repos pour mon âme. Tu m'as accordé la paix avec Dieu. Mais maintenant, j'ai besoin de guérison. Et cette guérison-là, tu me l'as aussi accordée. Elle nous appartient sur le fondement de l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha, sur la croix. Vous pouvez encore, dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, le chapitre 2, au verset 24 et 25, lire que de notre Seigneur, ces deux choses-là ont eu lieu, la rédemption et aussi la guérison. Ensuite, nous avons dans Amos 3, le verset 3, cette parole merveilleuse. Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés, s'ils ne se sont pas rencontrés? Ils se sont rencontrés et ainsi ils marchent ensemble. Ça, c'est en relation avec la parole que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son conseil, son secret, son mystère à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être rencontrés, sans s'être concertés, ou alors sans s'être rencontrés? Avant de pouvoir marcher ensemble, il faut être rencontrés l'un avec l'autre. C'est ainsi avec nous et avec le Seigneur. D'abord la rencontre avec lui, Bien-aimés frères et sœurs, ça ne nous sert à rien de lire que Enoch marchait avec Dieu. Cela est écrit dans Genèse chapitre 5 au verset 24. Et en fait, Enoch était un homme marié. Il avait des fils et des filles. Mais Enoch marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Au milieu de toutes les circonstances difficiles de la vie, chaque homme peut marcher avec Dieu si ici est accompli que nous avons eu une rencontre avec Dieu et que sur son chemin, nous le suivons. Alors une marche avec lui est possible. Il y a beaucoup de versets bibliques que nous pourrions lire. Même ce verset biblique dans Hébreu, le chapitre 11, où il est réellement écrit que Enoch subitement fut enlevé, subitement, sans que cela lui soit annoncé auparavant, ou bien que cela soit annoncé auparavant. Enoch marcha avec Dieu et ensuite il est dit subitement, il ne fut plus trouvé, il fut enlevé. Faisons mention de notre temps, cela de la même manière aussi. Celui qui marche avec Dieu maintenant sera au moment arrivé du retour du Seigneur Jésus-Christ, sera réellement, comme venant du ciel, surpris. Cela aura lieu en un clin d'œil, subitement. Les trompettes vont retentir, la voix de l'archange va se faire entendre et ceux qui se sont endormis en Christ vont ressusciter et nous qui sommes restés vivants en Christ, nous serons transformés et en un clin d'œil, nous serons enlevés. Aux États-Unis et dans d'autres pays, il y a cette doctrine qui prétend que les morts vont ressusciter et au moins 30 jours vont rester parmi nous. Nous n'avons pas besoin de la résurrection des morts. Nous avons besoin de la dernière phase des vivants. Parce que les morts ont déjà reçu leur héritage, sont déjà morts. Donc, personne n'a besoin de s'occuper d'eux. Car il est dit concernant eux que le Seigneur va les conduire. Vous pouvez le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ici, il est écrit clairement que le Seigneur va conduire ceux qui se sont endormis en Christ avec lui. Et donc, personne n'a besoin de se soucier, n'est-ce pas, d'eux. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ici, on devrait lire à partir du verset 13. À partir du verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alors qu'est-ce que nous voulons encore de plus? Ici, il ne s'agit même plus de la résurrection des morts. Donc, ils sont là avec nous, alors le Seigneur doit être aussi déjà là avec nous, puisqu'il va les ramener avec lui. Non, mes bénis frères et sœurs, ici, seulement est valable la véritable parole de Dieu. Aucune imagination ou bien idée humaine, mais ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Si la résurrection des morts a déjà eu lieu, donc où est le Seigneur ressuscité avec eux? Pour nous, est seulement valable ce qui est écrit dans sa parole. Nous avons encore mentionné cela dans 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Il est écrit que notre Seigneur reviendra et alors là, il n'est, dans ce contexte, il n'est même plus parlé de la résurrection des morts dans 1 Corinthiens 15. Mais il est dit, 1 Corinthiens 15, il est dit que la mortalité va revêtir l'immortalité, la corruptibilité va revêtir l'incorruptibilité et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais ici est le point important qui doit être encore dit. Chaque fausse doctrine et enseignement apporte des divisions et fait en sorte que des personnes s'égarent et sont égarées. Chaque vrai enseignement nous unit dans l'esprit, dans la parole et dans le Seigneur et nous conduit dans l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour nous qui avons ce grand privilège, c'était dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42-43, pour nous qui avons ce grand privilège de croire comme le dit la Sainte Écriture, et nous avons écrit sur ces choses, il ne s'agit pas seulement de rester à un seul verset, mais d'aller au suivant, et encore de nouveau au troisième, au quatrième, au suivant, puisque pour que tout sujet soit confirmé par toutes les Écritures, et que nous avons une vue d'ensemble sur la signification de ces choses, de toutes les différentes angles, et une vue d'ensemble par la grâce de Dieu. C'est simplement ainsi que Dieu l'a conduit ainsi. Et aussi, ça, nous avons eu à écrire là-dessus. Ce n'est pas tout qui est écrit dans un seul verset, mais est réellement éparpillé dans toutes les Écritures, les Saintes Écritures. Et celui que tu regardes, exactement. Et mes bien-aimés frères et sœurs, ça je le dis en me référant aux citations de frère Branham. Frère Branham a fait que voulu dire. Frère Branham a fait que voulu dire ce que les Saintes Écritures disent. Mais quand, par exemple, il s'agit d'Apocalypse 10, de ce chapitre, il s'est toujours de nouveau référé, alors il faut simplement savoir que en tant que le dernier ange de l'Église, en tant que le dernier messager de l'Église, de l'âge de l'Église, il avait le droit de se référer à ce verset d'Apocalypse 10. Et ici est le point important. Et je vous le dis, ce n'est pas un grand mystère. Mais les hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, ont annoncé des choses à l'avance qui, dans le Nouveau Testament, se sont accomplies. Et je vais vous dire aujourd'hui quelque chose. Par exemple, le prophète Malachie, par exemple, a prophétisé, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. On peut le lire. Ensuite, ce jour-là, redoutable et terrible, est décrit en tant que jour de colère, en tant que jour de vengeance. Le jour du Seigneur est décrit dans tous ses détails, particulièrement dans le prophète Ésaïe, il est décrit, même dans Ésaïe 61, il est parlé de l'année de grâce et ensuite, directement après, de l'année de le jour de vengeance de notre Seigneur, dans un seul verset. Mais dans Luc 4, la deuxième partie, le jour de vengeance n'est plus inscrit, mais seulement la première partie, l'année de grâce, l'année agréable du jubilé de notre Seigneur, annoncé cette année. Mais la deuxième partie, le jour de vengeance, n'est plus écrit dans Luc 4. Mais pourquoi? Parce que autrefois, ce n'était pas ce qui était valable. Le jour de vengeance est encore dans le futur, devant nous. Autrefois, à l'époque du Seigneur, c'était le jour de l'année de... C'était le jour de la grâce, l'année de la grâce qui était devant nous. Et il a lu seulement le verset qui s'accomplissait. Et alors, Pierre, dans sa première prédication, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, si nous considérons cela, oui, il a fait de ce jour terrible et redoutable un jour glorieux. Un jour glorieux. Et maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Lisez-vous. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Et lisez. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. Ici, il est dit concernant le jour glorieux. D'autres versets même disent, d'autres écritures disent le jour particulier, le jour glorieux, le jour grand. Mais oui, de quoi il s'agit ici? La première partie, tout à fait bien citée de l'Ancien Testament, dans Actes des Apôtres 2, par Pierre, je vous le lis. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Dans l'Ancien Testament, il est parlé de ce jour grand, terrible et redoutable. Mais ici, ce jour grand et glorieux. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Et les deux sont vrais et ces deux sont justes et corrects. Pour nous, les croyants, c'est le jour le plus glorieux. Et ce qui va suivre après nous sera un jour terrible. Les deux sont vrais. Mais il s'agit du départage. Il faut que cela soit enseigné de manière biblique et exactement pour qu'il soit montré au peuple de Dieu dans quel contexte et où et quoi appartient à quoi. Chaque citation doit être mise à sa place. Et ensuite, ça continue dans 1 Corinthiens. Le premier chapitre, Paul a directement parlé de ce jour glorieux de Jésus-Christ dans 1 Corinthiens chapitre 1. Il avait le droit de le faire parce que ici il s'agissait de l'Église, pas de la vengeance et de la vengeance et de la colère qui va venir après l'enlèvement, mais il s'agissait de nous qui sommes devenus croyants. Et c'est peut-être raison que la première partie est l'enlèvement, notre achèvement, et ensuite c'est un jour glorieux. Donc pour nous, ce ne sera pas un jour terrible pour nous, le jour du Seigneur. Ce sera un jour glorieux pour nous, les croyants, le jour du Seigneur. Oh, matin glorieux, quand Jésus vient. Mais je veux seulement dire, Pierre avait l'Église devant ses yeux. Il n'avait pas parlé, il n'avait pas vu à la fin où le jour du Seigneur va apparaître, la colère de notre Dieu, la vengeance, où les éléments vont exploser. Comme c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 3. Mais il voit le mystère de l'Église qui déjà dans cet testament était resté caché, qui n'avait même pas été révélé. Et c'est ainsi que nous voyons dans notre temps le ministère de frère Branham. Comment est-ce qu'il a utilisé les Saintes Écritures et qu'il a exposé les choses à leur place pour nous donner l'introduction dans le conseil de Dieu. Laissez-moi lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 1. Ici, il est écrit à partir de verset 7. À partir de verset 7 et 8. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cela est adressé aux croyants. On pourrait dire même à l'Église épouse. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, irréprochable. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. De la même manière, Paul écrit aussi aux Philippiens et leur montre le jour de Jésus-Christ. Et ça, c'est le jour, c'est la partie glorieuse de ce jour. La partie glorieuse de ce jour. Et ça, on doit simplement le voir de cette manière, telle que l'Écriture l'enseigne. Je ne fais que mentionner ces choses pour aider, pour que nous puissions savoir que la parole de Dieu doit être dispensée correctement. Ça ne sert à personne de lire seulement un verset biblique et de le répéter. Il faut que la parole de la vérité soit dispensée correctement. Ici, nous l'avons dans Philippiens, le chapitre 1, d'abord le verset 6 et ensuite le verset 9. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. Pas pour le jour du Seigneur, mais pour le jour de Jésus-Christ. Ensuite, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Et c'est seulement dans 2 Thessaloniciens, le deuxième chapitre, que Paul a résumé cela. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Maintenant, s'il vous plaît, résumez cela ensemble. Plusieurs fois, jour de Christ, jour de Jésus-Christ, jour du Seigneur, et maintenant, les deux sont résumés. C'est-à-dire, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, il s'agit de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Est-ce que vous remarquez? Avec quelle sagesse divine il a exposé l'enseignement biblique dans les Saintes Écritures. Nous pouvons seulement dire que Dieu, dans sa fidélité, a fait en sorte que nous n'avons rien apporté de propre. Nous n'avons rien su, mais tel que nous l'avons lu dans Deutéronome, le verset, le chapitre 27. Restez dans le silence. Taisez-vous. Observez et écoutez. Ça, c'est le grand problème aujourd'hui. Personne veut écouter dans le silence. Tous veulent dire quelque chose, écrire quelque chose. Et dans cette grande réunion à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'ai eu à le dire. Et nous allons peut-être demain encore venir à parler de cela, Dieu voulant. Que aussi l'Apocalypse est écrit d'une manière telle que Dieu l'a donnée et tous les différents événements sont dans le contexte donné dans lequel il a sa place. Et après que tous les événements ont été énumérés, par exemple, le repas des noces, le règne de Milan et le jugement dernier, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Après tout cela, dans Apocalypse 22, encore une fois, il résume tout et il dit, voici, je viens bientôt et ma rémunération avec moi. Et ensuite, il dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. On peut encore le lire. Vous pouvez lire dans Apocalypse 21, Apocalypse 22. Ce sont des choses qui sont écrites qui, avant l'enlèvement, vont avoir lieu. Si on disait, par exemple, mais les chapitres-là sont comme ça à ordonner l'un après l'autre, c'est pas possible. C'est pas toujours possible. Dieu a un certain ordre. Et je le répète encore une fois, parfois des événements qui sont énumérés après vont avoir lieu avant. Et on doit comprendre que ce qui est déterminé à l'église épouse, c'est ça que nous devons considérer et que c'est ce qui est plus important pour nous. C'est-à-dire que nous devons comprendre que complètement à la fin, l'esprit et l'épouse vont parler le même langage. L'esprit et l'épouse seront unis l'un avec l'autre dans la parole de la vérité et unis, un, d'une manière qu'il n'y aura plus de propres pensées qui pourront s'infiltrer. Bien, mes frères et sœurs, beaucoup de choses pourraient être encore dites là-dessus. Nous avons aujourd'hui le souper du Seigneur. Je ne sais pas si dans chaque année c'était comme ça. Sûrement il y a beaucoup d'années, nous avons deux, trois fois dans l'année eu le souper du Seigneur. Et aussi ce soir, nous l'aurons. Nous aurons la Sainte Cène. Nous allons fêter cela et nous allons nous examiner chacun dans la parole de Dieu devant Dieu. Est-ce que nous sommes dignes? Et dignes sont tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur et qui ont accepté dans la foi le pardon de leurs péchés. Le souper du Seigneur est une confession à ce qui s'est passé pour nous sur la croix du calvaire à Golgotha. C'est-à-dire que notre Seigneur est rédempteur sur la croix à Golgotha, a laissé frapper son corps et a versé son sang pour notre rédemption. Et nous l'avons entendu, ce qui a été écrit là-bas et ce qui est dit. Et je voudrais, avant le souper, lire dans Jean chapitre 6 pour nous montrer le langage en symbole de notre Seigneur, encore une fois, nous le représenter devant les yeux à tous. Vous savez, le souper du Seigneur est un sujet de dispute depuis le jour de la Réformation jusqu'aujourd'hui encore, un sujet de querelle. Les uns disent que c'est ceci, les autres disent cela représente ceci et cela, et la querelle est âgée de plus de à peu près 500 ans jusqu'aujourd'hui, a duré une querelle, une dispute sur le souper du Seigneur, sur la Sainte Cène, n'est même pas nécessaire en fait. Quand on va dans les différents versets de Matthieu 26 et dans d'autres versets, mais avant de le faire, il faut que réellement de Jean 6, on puisse lire les versets où notre Seigneur, pendant quelques minutes, vient à parler du pain qui est descendu du ciel, qui vient à parler de son corps qui sera apporté, de son sang qui sera versé. Je lis seulement quelques versets. Jean chapitre 6, à partir du verset 48. Je suis le pain de vie. Qu'est-ce que le pain a comme signification? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ici, il parle de lui-même, de son sacrifice auquel nous devons avoir part et avons la grâce d'avoir part. Le verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Pas seulement celui qui prend part au souper, à la Sainte Cène, mais celui qui prend part, celui qui mange ce pain-là, vivra éternellement. C'est-à-dire, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Nous devons et avons la grâce. D'accepter notre Seigneur dans son humanité en tant que devenu homme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas resté dans son corps spirituel. Il est venu à nous. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Tel qu'il s'est révélé à nous et tel qu'il nous a rachetés, c'est ainsi que nous devons l'accepter, le recevoir. Ma chair, mon corps, je vous le donne pour la vie du monde. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Cela continue encore un peu. Au verset 53, notre Seigneur parle et dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Bien-aimés frères et sœurs, en lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire dans 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, au verset 11 et 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ici, parler en parabole, celui qui le reçoit, il reçoit la vie éternelle. Il a la vie éternelle, car il est le véritable Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Ici, il est écrit encore au verset 54 de Jean 6. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ça, c'est le résultat de tout. Tel que le Père qui a la vie en lui habite en moi, et moi par lui j'ai la vie, c'est ainsi que tous ceux là ont la vie éternelle par moi. Et nous sommes de nouveau arrivés à ce point que réellement nous devons discerner en recevoir le Seigneur par la repentance et la conversion, abandonner le chemin large qui mène à la perdition et marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie. Simplement passer par la porte étroite réellement, par la foi, dans la foi, et expérimenter son salut personnel et le salut de son âme et le salut de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est seulement après que nous pouvons aller à ce qui est écrit dans Corinthiens. Mais d'abord, ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, nous voulons le lire. Matthieu chapitre 26. Ici nous avons, n'est-ce pas, la description du repas du Seigneur et en fait aussi de la Pâque pendant laquelle le souper du Seigneur a été établi. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Auparavant, il avait dit, je donne mon corps pour la vie du monde. Dans Jean 6. Maintenant ici, il dit, ceci est mon corps. Et ensuite, il prit une coupe, verset 27. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le péché, pour le pardon des péchés. J'ai une question adressée à nous tous. Nous avons le pain représenté devant les yeux que le Seigneur a brisé, rompu. Nous avons la coupe devant les yeux avec le vin. Qu'est-ce que notre Seigneur, dans le verset 28, a voulu dire quand il disait, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Est-ce qu'il a voulu par là parler du vin dans la coupe? Est-ce que la coupe a été versée? Est-ce que quelqu'un a versé comme ça la coupe? Ou bien alors, est-ce que le sang de l'agneau de Dieu a coulé, a été versé pour le pardon de nos péchés? Est-ce que vous remarquez comment est-ce que le Saint-Esprit conduit et les têtes soi-disant sages et intelligentes ne pourront jamais comprendre cela? Elles vont faire que se disputer et avoir des querelles. Et aussi, nous avons souvent eu à dire cela. Celui qui discute encore, dispute encore, n'a pas encore de révélation. Celui qui a la révélation n'a pas besoin de discuter. Discute plus que cela. Oui, est-ce que cela pourrait signifier ceci ou bien cela? Non, nous voyons comment est-ce que le Seigneur lui conduit et il fait mention à lui de l'alliance, du sang de l'alliance. Il parle qui réellement est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Dans les églises, le souper du Seigneur pour le pardon des péchés est partagé et les gens pensent que en prenant le souper du Seigneur, par cela ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Nous sommes convaincus, selon les Écritures, que nous sommes devenus croyants. Nous avons reçu le pardon de nos péchés par le sang de l'agneau et nous confirmons dans le souper du Seigneur que Christ n'est pas mort en vain pour nous, mais que son corps est un mort et on servit à quelque chose pour nous tous. Donc encore une fois, bien frères et sœurs, on doit toujours exactement lire, être calme dans le silence et écouter en observant. S'il vous plaît, écoutez bien. Le vin était dans la coupe. Et au verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. La vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, il a parlé du produit de la vigne. Il a bu du produit de la vigne. Mais d'une transformation de vin en sang, il n'a même pas parlé de ça ici. D'une transformation de pain en corps du Seigneur, il n'a même pas parlé de ça ici dans la Bible. Pas du tout. Ça, ce sont des hommes qui ont infiltré cela. Et ils égarent le peuple. Ils leur font des fausses promesses, leur disant que dans le souper du Seigneur, leurs péchés leur sont remis. Non, et encore une fois, non. La rémission du péché, le pardon des péchés est reçu par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur et Rédempteur, par la foi en l'œuvre accomplie sur la croix à Golgotha. Et en fait, même dans Hébreux, il est écrit, n'est-ce pas, que notre Seigneur, en tant que grand sacrificateur, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste. Et c'est ainsi que nous avons le trône de la grâce qui est aspergé de sang, et le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel et à plus haute voix. Et aujourd'hui encore, le sang est sur le trône de la grâce. Et là aussi, on doit écrire et on doit dire que notre Seigneur, en tant que grand sacrificateur, n'a pas quitté le trône de la grâce au moment où l'agneau a pris le livre pour ouvrir les sept sceaux. Il est et il reste grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek jusqu'à ce que le dernier soit sauvé et ait expérimenté son salut et sa rédemption et que il soit lavé dans le sang de l'agneau. Imaginez-vous, le Seigneur aurait quitté le trône de la grâce, et cela en 1963, en mars, quitté le trône de la grâce alors que les sceaux furent ouverts, comme beaucoup le prétendent. Non, et encore une fois, non. Le sang parle pour nous. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Des personnes peuvent encore être sauvées et le plein salut en Jésus-Christ, notre Seigneur, expérimenté. Encore une parole merveilleuse de l'évangile de Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14. Ici, nous avons ces paroles merveilleuses. Marc, chapitre 14, à partir du verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et ensuite il leur dit, ceci est mon sang, le verset 24, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Encore une fois, que cela soit dit, et tous peuvent très bien le comprendre, tel qu'il parle ici en comparaison. Il a donné son sang, il a versé son sang pour que nous puissions être sauvés, pardonnés et réconciliés avec Dieu. Ça, c'était le sang de l'alliance. Mais encore ces paroles de 1 Corinthiens en leur place ici, le chapitre 10, et dans 1 Corinthiens chapitre 11, ces chapitres-là vont ensemble. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Maintenant, nous avons tout ensemble. Le corps du Seigneur qui a été apporté, le pain qui a été béni, ensuite l'Église des rachetés, qui forme le corps du Seigneur. Lui, la tête, lui, le chef, nous, les membres. 1 Corinthiens, chapitre 12. Beaucoup de membres, mais un seul corps. Et ici, ensuite, pain et corps sont montrés ensemble. Et je le répète encore une fois. Verset 16, je le relis. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? C'est de ça qu'il s'agissait. Et par le sang de Christ, avoir communion avec Dieu, recevoir la communion avec Dieu, car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et par la puissance de la rédemption par le sang, nous avons communion. Communion de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Au corps de Christ, d'abord, avec le corps qui vraiment a été apporté, et ensuite avec le corps que les rachetés en tant que toute l'Église symbolise ou bien représente. Le corps, verset 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Est-ce que vous remarquez comment est-ce que Dieu accorde sa grâce? Et qu'il conduit toutes choses d'une manière harmonieuse. Qu'il n'y a pas un seul verset qui serait contre un autre, mais chaque verset complète l'autre jusqu'à ce que l'image soit parfaite devant nous. Et maintenant encore ce verset de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Car je l'ai reçu du Seigneur à ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ces paroles-là, mon corps, ceci est mon corps qui est rompu pour moi. Cela n'est pas écrit dans Matthieu ni dans Marc, mais dans 1 Corinthiens 11, verset 24. Nous voyons comment est-ce que l'Esprit de Dieu jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la perfection, conduit et chaque sujet des Écritures est éclairci et révélé jusqu'à dans tous les petits détails, il accorde la clarté comme il est dit ici. Et après d'avoir rendu grâce, le rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Le pour vous là n'est pas dans Marc ni dans Matthieu. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après d'avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Il relit le verset 24. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 26. C'est vraiment simplement merveilleux comment est-ce que Dieu, dans sa parole, a dit toutes choses. Mais il faut que cela aussi soit dit. Ce n'est pas tout qui est écrit dans un seul chapitre. Ce n'est pas tout qui est écrit dans un seul verset. Chaque sujet est éparpillé et doit, en tant que chose entière, conduit ensemble, rassemblé ensemble pour avoir de la part de Dieu la vue d'ensemble sur chaque sujet. La chose principale consiste à ce que, n'est-ce pas, nous puissions, nous consiste à ce que nous sommes sauvés et que nous avons la certitude de notre salut et que le sang de l'Alliance a pu produire son effet et que nous sommes entrés dans cette alliance avec Dieu et que nous avons consacré au Seigneur notre vie et que ainsi nous pouvons venir à la table du Seigneur et sans inquiétude fêter le souper du Seigneur. Et bien, mes frères et sœurs, s'il y a parmi nous des frères et sœurs ou bien des amis qui n'ont pas encore la certitude de la foi, je vous demande, à cause de Jésus, ce que Dieu, dans son Fils, seul engendré par lui, sur la croix à Golgotha, a accompli. Ne remettez pas en question. Acceptez-le dans la foi. Dans la foi. Et c'est à ce moment-là que s'accomplit cela quand il est dit, crois en Jésus-Christ. C'est ainsi que toi et ta maison, ou qui que vous soyez, vous serez sauvés. L'incrédulité est la perdition de l'homme. C'est seulement la foi qui est notre salut. La foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Aujourd'hui, chacun peut venir, chacun peut expérimenter Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aussi prier pour tous les malades après cette réunion. Nous devons prendre Dieu à sa parole. Ce n'est pas possible autrement. Nous devons prendre Dieu et nous allons prendre Dieu à sa parole. Au mot, celui qui ne peut pas le faire seul, aussi pour tous ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu. Nous voulons prier l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Et la parole du Seigneur ne reviendra pas sans effet à lui, mais elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée par Dieu. Pour finir, je voudrais encore dire la chose suivante. Ce n'est pas à nous de juger les autres religions et d'autres personnes, non plus le christianisme et les églises chrétiennes. Ce qui a été mentionné ce soir est en relation avec ce qui se passe actuellement et est constaté ici et là. Cela ne servirait à rien pour nous de savoir ce qui est faux chez les autres si nous-mêmes, nous ne nous tenions pas dans la bonne position devant Dieu. Si nous-mêmes, nous n'avions pas trouvé la grâce devant Dieu et que réellement nous marchons sur le chemin étroit qui mène à la vie, que cela devienne une réalité divine en nous tous par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui, pour tous ceux qui écoutent et qui regardent dans le monde entier, que ce jour soit un jour particulier et que tous ceux qui écoutent et qui voient puissent croire, simplement croire que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même et que le souper du Seigneur en tant que en mémoire à l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix est pris dans la fête. Le pardon est dans le sang de l'agneau, lavé dans le sang de l'agneau. 23 fois l'agneau, encore dans les chapitres de l'Apocalypse, est mentionné. 23 fois seulement dans l'Apocalypse, Jésus-Christ en tant qu'agneau est mentionné. L'agneau de Dieu a porté les péchés du monde, a ôté les péchés du monde. Tes péchés et mes péchés, il les a portés sur la croix, sur le bois. C'est accompli. Nous sommes rachetés, nos péchés sont pardonnés, payés nos fautes. Lui, l'agneau, soit la loi apportée la louange dans toute éternité pour l'œuvre accomplie de la rédemption dans laquelle, pendant le souper, d'une manière très particulière, nous nous rappelons. Dieu le Seigneur, qu'il puisse nous bénir tous et soit avec nous tous. Amen. Amen. Nous nous levons et nous prions. Nous allons encore prier l'un avec l'autre. Je ne sais pas si nos deux sœurs, peut-être, auraient un cantique qui s'ajuste, qui exprime l'appel à venir au Seigneur, et tous nous nous examinons dans la présence de Dieu. Nous voulons lui consacrer notre vie, lui dire tout, et il va faire grâce, comme toujours, encore aujourd'hui, comme toujours, encore aujourd'hui. Ensuite, nous chantons avant que les sœurs viennent. Oui, elles viennent. Chantons tel que je suis, sans rien de moi. Oui, qu'est-ce que vous avez? Ou bien alors, chantez d'abord, et ensuite, un moment, ensuite nous allons chanter, oui. Prends ma vie, qu'elle soit à toi.
Nimm mein Leben, lass es dein, treuer Gott auf ewig sein.
Prends ma vie, qu'elle soit à toi pour toute éternité. Que je sois zélé dans ta volonté et fasse seulement quelque chose parce que tu me le dis. Lave-moi dans le sang de l'agneau, dans le sang précieux de Jésus, dans ce fleuve de grâce. Seigneur, c'est seulement à toi que je veux consacrer ma vie. Maintenant et pour toute éternité, je t'appartiens.
Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück.
Que ma bouche soit pure, pleine de ta vérité.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben sein. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche
que cette vie soit consacrée à ta victoire. Et que tout te soit consacré comme cela te plaît. Lave-moi dans le sang de l'agneau, dans ce fleuve de grâce.